Coup de karma.
Bonjour, je suis Bina Paradin-Mikoto.
Coup de karma.
L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Food Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Food Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Food Karma. Vous venez avec moi ? Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Sandra Salmanji. Sanji, bonjour Sanji.
Bonjour, bonjour Bina. Merci de m'accueillir sur ton podcast, je suis hyper contente de participer à Food Karma.
Merci beaucoup Sanji, c'est un plaisir de t'accueillir.
Ça fait bizarre de parler dans un micro, ça me donne envie de chanter.
Mais tu sais que j'adore le karaoké en plus.
Ça va, moi aussi. Ça fera plus tard.
On finit par un petit bouillon dans le karaoké.
Allez, ça marche.
Sanji, tu es passé sans transition de la mode il y a une dizaine d'années à la cuisine. Tu es connu sur les réseaux sociaux comme Sanji de Bollywood Kitchen. Tu es l'auteur de 6 ouvrages, si j'ai bien compté.
Eh bien non, tu te trompes. 8.
8, alors j'ai mal compté.
Ça passe vite.
Sur la cuisine indienne, dont le dernier en date est le grand livre de la cuisine indienne.
Exactement, qui est un mix en fait de tous mes livres précédents.
Chez Mango.
Toujours.
Tu as de multiples activités, tu es consultante, tu crées des événements culinaires, tu es auteur culinaire donc et experte en contenu digital.
Exactement, mais tu retournes de la cuisine.
Je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir pour parler du bonheur de cuisiner indien.
Eh oui, le bonheur de cuisiner indien, c'est un bon démarrage ça.
Il y a un point commun qui était le thème du coup que je voulais aborder avec toi.
Food Karma. Food Karma.
Sanji, comment es-tu passée de la mode à la cuisine ?
Ça, c'est une très, très, très bonne question. Alors déjà, moi, quand j'ai fait des études de marketing assez classiques, et j'ai toujours, pendant mes études, j'ai toujours rêvé en fait, de bosser dans la mode. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais ce que je savais, c'est que je voulais bosser dans le milieu du prêt-à-porter, de la bijouterie, de la mode, etc. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai commencé, donc après mon école de commerce, j'ai commencé chez Agnès B, donc une super maison de créateurs où j'ai fait une année et demie super. J'ai enchaîné en fait les postes jusqu'à mon dernier poste en fait en date, en tant que salarié, où j'étais chef de produit chez Cacharel.
Tu t'occupais de la création des produits, des vêtements.
Exactement, en fait. Je m'occupais même précisément de la création de la ligne de prêt-à-porter homme de Cacharel. Charles Homme, qui est un peu moins connu en France, mais qui était beaucoup plus connu à l'étranger. Et du coup, voilà, c'était des super expériences et j'adorais d'ailleurs mon métier. Et ce n'est pas du tout par dépit, contrairement à ce qu'on peut penser, que je me suis tournée vers la cuisine. C'est plus par opportunité, on va dire, puisque mon dernier poste en date, donc à Charel, j'ai été licenciée économique, donc j'ai fait partie d'un plan social pour lequel je me suis beaucoup posé de questions en me demandant si j'allais reprendre un vrai poste, si j'allais pas monter ma boîte. Et à ce moment-là, les blogs commençaient à se faire connaître, et notamment les blogs de cuisine. C'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait précisément à ce moment-là. Et ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. J'ai créé un blog de cuisine à ce moment-là. Alors certainement parce que je m'ennuie un petit peu.
En te levant un matin comme ça.
Presque. C'était peut-être plus autour d'un apéro avec des copines. Mais en gros, je me suis dit, tiens, j'ai du temps en ce moment. Ça prend du temps de faire un blog. Donc, utilisons ce temps pour construire quelque chose. À cette époque-là, j'aimais déjà beaucoup cuisiner, mais pas autant qu'aujourd'hui. Je cuisinais indien parce que mes amis me demandaient toujours de la cuisine indienne quand je les invitais chez moi. Et comme ma mère, j'adorais recevoir. Je me suis dit, je vais pas faire un énième mode de mode parce que je suis pas une modeuse en vérité. J'aime la mode, mais pas au point de me surexposer, d'acheter beaucoup de vêtements, etc. J'adore ça, mais voilà. Et à ce moment-là, c'était la cuisine. Et j'ai créé un jour, sur un coup de tête, mon blog, il y a maintenant à peu près 10 ans, qui s'appelle Bollywood Kitchen.
Alors, d'où te vient cette passion de la cuisine indienne ?
Alors, cette passion, en fait, déjà, ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle arrivait assez tard. C'est-à-dire que je suis restée chez mes parents assez tard, puisque j'ai fait des longues études et que je me sentais très bien chez mes parents. Pour être honnête, j'avais aucune raison d'en partir, sauf de vouloir justement prendre mon envol. Mais voilà, c'était pas... Donc, je suis restée chez mes parents assez tard. Et ma mère cuisinait énormément. Et à la maison, mon père aussi cuisine beaucoup. Hein. Et à la maison, en fait, on recevait beaucoup autour de la cuisine, et notamment de la cuisine indienne, ça c'est sûr. Ma mère n'invitait pas des gens pour leur faire autre chose que de la cuisine indienne. Et elle m'a donné, en fait, cette manière de faire. C'est-à-dire que c'est pour ça, moi aussi, quand j'invitais des amis à la maison, je ne leur faisais pas autre chose que de la cuisine indienne. Et puis, de toute façon, j'étais attendue au tournant. Si je leur faisais des pâtes, ils étaient hyper déçus, donc c'était hors de question. Et donc voilà, je pense que ma mère m'a transmis en fait cet amour de la cuisine un peu inconsciemment, parce qu'en fait au final je me rends compte que j'ai jamais cuisiné avec ma mère.
Ah oui.
À cette époque-là, je ne cuisinais jamais. J'étais là.
Tu la regardais faire.
Je la regardais beaucoup. Elle essayait de nous transmettre un peu, mais elle cuisinait toute seule en vérité. Elle nous disait même pas de cuisiner avec elle. En fait, c'était son truc. Donc moi, je pense que inconsciemment, j'ai été bercée par les odeurs, j'ai été bercée par cette peut-être un peu comme une sorte d'éducation, j'appellerais ça une éducation culinaire, mais c'était un peu de l'inconscient parce que je cuisinais pas du tout chez moi. Ou alors quand je cuisinais, c'était pour faire des choses que ma mère ne faisait absolument pas. Par exemple, des lasagnes, des tartes au citron, enfin voilà, des choses
un
comme ça.
Un répertoire différent de celui de ta mère.
Complètement. Parce que ma mère cuisinait tellement bien que je voulais pas, je voyais pas l'intérêt de cuisiner indien à la maison, quoi.
Tu ne pourrais pas la dépasser.
aujourd'hui, on a une cuisine différente. Alors c'est bizarre parce que on cuisine pas du tout pareil. Et c'est pas, je vais pas cuisiner des choses que elle fait ou que j'aime manger chez elle. Je vais plutôt faire mes recettes. Et
tu
du
peux
coup,
me donner des exemples de choses, par exemple, que tu trouves divines dans la cuisine de ta mère et que tu ne cuisines pas?
Alors ma mère par exemple, elle cuisine beaucoup de légumineuses. Par exemple moi, quand je fais des dalles, donc le curry de lentilles qu'on connaît très bien, je vais toujours faire un dalle par exemple de lentilles corail. Ma mère, elle fait jamais de dalle de lentilles corail, c'est hyper rare. Elle va utiliser d'autres sortes de légumineuses. Donc par exemple, elle va plus utiliser des pois cassés ou des choses comme ça. Mes parents mangeaient beaucoup de viande à l'époque. On était vraiment une famille de carnivores. Donc moi, on mangeait de la viande à tous les repas. Vraiment, c'était une époque où, il y a quelques années de ça, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on mangeait énormément de viande. Moi, je cuisine quasiment pas de viande, pour le coup. Très rarement, j'en cuisine assez peu, finalement. Et c'est vrai que, du coup, ma mère a une cuisine peut-être un peu plus végétale aussi, aujourd'hui qu'avant. Voilà, mais on cuisine pas du tout la même chose.
Tes parents sont nés à Madagascar, si
Exactement.
J'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le rôle de la cuisine indienne dans leur transmission culinaire, puisque leurs ancêtres étaient indiens?
Exactement.
Et comment ils ont réussi à garder de génération en génération ce goût de l'Inde?
Alors, effectivement, mes parents viennent d'une communauté indienne, donc du Gujarat, d'une communauté en fait...
Donc, il y a une région qui est dans le nord de l'Inde,
qui
plutôt.
Qui est dans le nord de l'Inde, exactement. Donc, on a une culture un peu du nord de l'Inde qui est restée en fait au fil des générations, parce qu'il y a quand même dans cette communauté indienne de Madagascar, il y a un côté... Je répète le mot, mais un peu communautaire justement. Donc, il n'y a pas beaucoup de mélange. Les Indiens restent beaucoup entre eux et du coup, ils se transmettent finalement cette culture.
Mais c'est une transmission qui se fait comment, de mère en fille?
Ouais, ça se fait beaucoup
en
de
famille.
Mère en fille. On se transmet les recettes de mère en fille. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce que moi, je ne m'en rendais pas forcément compte à l'époque, mais aujourd'hui, je m'en rends compte en écrivant des livres. J'ai beaucoup de jeunes, donc de 20 ans, qui aujourd'hui m'écrivent à travers mon blog pour me dire à quel point elles sont contentes que je retranscrive certaines recettes de leur famille dans mes livres. Et ça me fait super chaud au cœur parce que je me dis c'est marrant qu'il y ait des gens qui se rendent compte en fait justement que on a quand même une culture forte presque familiale dans les recettes que moi je transmets en tous les cas.
Et est-ce que ces recettes, elles étaient écrites ou c'était vraiment de la transmission orale uniquement?
Alors, la transmission orale uniquement. Et après, moi, j'ai moi-même un peu construit ma propre cuisine en vérité. Mais parce que ma mère, quand elle me transmet une recette, c'est un petit peu de ci, un petit peu de ça.
Comme toute bonne mère indienne qui se respecte.
Exactement. Et c'est vrai que quand ma mère, elle me dit « je mets un petit peu d'huile » et qu'elle en met 4-5 fois plus que moi, je peux pas... Du coup, j'ai aucun rapport avec les mesures qui sont, enfin en tous les cas c'est jamais précis quoi. Donc j'ai dû me faire ma propre cuisine, j'ai dû me faire mes propres recettes. Donc en les testant, en allant voir un peu ce que faisaient les autres aussi. Hein. Typiquement moi je suis très, j'aime beaucoup les auteurs anglo-saxons par exemple ou même les auteurs indiens et j'achète souvent des livres à l'étranger justement pour pouvoir aussi m'alimenter de ce qui se fait dans d'autres régions parce que je trouve que c'est d'une richesse énorme et c'est dommage de se limiter à sa propre cuisine.
Et est-ce que tu as un livre comme ça, coup de cœur, que tu as acheté à l'étranger
Ouais, j'en ai un, je peux te le montrer si tu veux. C'est Indian Kitchen, par exemple, je ne sais pas si tu le connais.
Oui.
Que j'aime bien aussi parce que je trouve qu'on a pas mal de points communs avec cette auteure-là. Qui s'appelle Monica et que j'avais connue à travers la chaîne de Jamie Oliver parce que moi je suis une grande fan de Jamie Oliver et je me disais elle représente typiquement l'autre partie de la cuisine indienne, celle que je connais un petit peu moins et du coup je trouvais qu'il y avait un côté complémentaire aussi parce qu'elle a une cuisine qui est beaucoup plus du sud finalement que je connais un petit peu moins du coup de par mes origines quoi.
Et tu disais que cette communauté était plutôt fermée, enfin en tout cas repliée sur elle-même pour retrouver le goût de l'Inde. Est-ce qu'il y a quand même eu des mélanges avec les ingrédients ou la cuisine malgache ? Et est-ce que toi, dans ton enfance, est-ce que tu as aussi des plats malgaches qui te parlent ?
Alors effectivement, c'est vrai qu'on a aussi cette espèce de double culture un peu malgache, malgré tout, du fait que mes parents, ils ont grandi à Madagascar. Moi, j'y passais tous mes étés quand j'étais petite. Donc tous les étés...
Toutes tes vacances, c'était à Madagascar.
Toutes mes vacances, tous les étés, je les passais à Madagascar jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à l'âge où on n'a plus envie de partir avec ses parents, quoique Madagascar, c'était quand même sympa. Mais bon, au bout d'un moment, on a envie de partir avec les copains. Donc voilà, j'ai arrêté de partir à Madagascar à cette époque-là. Et c'est vrai que j'ai été un peu bercée par les fruits exotiques de Madagascar, par les produits locaux. Et je me rappelle...
Quels sont les produits locaux ?
Par exemple, des plats malgaches qui ont bercé mon enfance, par exemple, c'est le roumazav et le raftout.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est des plats, en fait, un peu comme des ragoûts de feuilles. Donc des feuilles qui peuvent s'apparenter un peu à des épinards qui sont mijotées un peu longtemps comme ça avec de la viande et avec des bouillons. Et moi, quand j'étais petite, je me rappelle que je ne faisais pas forcément la différence entre un plat indien et un plat malgache. En fait, pour moi, c'était la cuisine de ma famille, quoi. C'est la cuisine de mes parents. J'ai compris un peu plus tard la différence entre un plat indien et un plat malgache. Aujourd'hui, la différence, elle est assez flagrante pour moi, évidemment, mais même en l'occurrence, c'est la cuisine malgache, elle est déjà beaucoup moins épicée que la cuisine indienne. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence. Et la cuisine malgache, c'est pas une cuisine qui est très fine. C'est une cuisine qui est très réconfortante, mais qui a pas la finesse pour moi de la cuisine indienne. Mais qui fait partie quand même de mes cuisines, un peu de mes madeleines de Proust. C'est-à-dire que pour moi, quand ma mère me fait un plat malgache, alors ça c'est marrant d'ailleurs parce que je ne cuisine jamais un plat malgache, je ne sais pas faire. J'ai jamais voulu apprendre.
Pas voulu apprendre.
Non, ça fait partie des plats aussi que ma mère fait divinement bien, que pour moi, il est hors de question que je fasse. Parce que voilà, je vais manger de la cuisine malgache chez ma mère. C'est comme ça. Et j'aimerais bien apprendre un jour quand même, parce que j'aimerais bien garder un peu ce petit patrimoine qui est quand même sympa. Donc, je vais me le noter, tiens, pour qu'elle me fasse des cours de cuisine malgache.
Moi, j'avoue que j'ai renoué avec un certain nombre de recettes que je ne faisais jamais parce que ma mère les fait mieux pendant le confinement. Parce que je ne voyais pas ma mère et que tout d'un coup, elles ont commencé à me manquer.
Exactement. Puis, il y a pas mal de petites recettes comme ça que ma mère aussi me transmet ou me fait. Comme on en avait déjà parlé, je crois, ensemble, elle me fait des petites pâtes d'ail pour faire que je récupère à la maison. Et c'est vrai que moi, c'est le genre de petits trucs qui m'avaient manqué aussi pendant le confinement parce que je me disais, je vois pas ma maman, du coup, j'ai plus d'ail.
Food Karma,
le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.
Food Karma.
Quelles sont tes recettes phares à toi que tu fais tout le temps ?
Que je fais tout le temps, j'aime bien. Alors, il y a un truc que je fais très très régulièrement, genre une fois par semaine à la maison, c'est effectivement genre le dal et les chapatis. Le dal coco,
alors,
chapati.
C'est quoi le dal et le chapati ?
C'est le plat préféré dans la famille, donc de mon fils, de mon mari. Donc, je suis obligée d'en faire une fois par semaine. C'est un petit curry de lentilles, mais tout simple. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des lentilles, des épices, de l'ail, de l'oignon, du gingembre et du lait de coco. Et je fais ça avec je sers avec soit du riz, soit des chapatis, soit les deux d'ailleurs. Ça m'arrive souvent de faire un peu de riz et un peu de chapati pour que ce soit un peu plus complet. Et ça, c'est vraiment le plat chouchou. Ça se fait en 10 minutes, ça plaît à tout le monde, quoi. Et de la coriandre fraîche. Ah oui, toujours de la coriandre fraîche.
Important.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres plats qui sont typiques de ta cuisine à toi et qui peuvent être différents de ceux que tu as connus dans ton enfance ?
Oui, certainement, ouais. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les légumes rôtis avec des épices, hein, le truc tout simple. D'ailleurs, j'utilise un peu d'huile d'olive aussi, ce que ma mère faisait pas trop. Moi, je trouve que c'est assez intéressant d'utiliser des huiles d'olive qui sont pas trop fortes avec les épices indiennes. Je trouve que parfois, ça apporte quelque chose, ça apporte une rondeur que j'aime bien, et notamment sur les plats, sur les légumes au four, je trouve que ça marche bien. Ou les pois chiches, pareil, un peu les pois chiches épicés au four avec des légumes, je trouve ça hyper sympa. Je fais des légumes, par exemple, des choux-fleurs tandoori, tu sais, les choux-fleurs entiers là, qu'on a vu beaucoup dans la cuisine levantine. Moi, je le fais un peu à l'indienne. Ça, c'est quelque chose que je mangeais pas non plus et que je faisais pas du tout en famille. Je mange aussi beaucoup plus de poulet que je le mangeais avec dans ma famille aussi, parce que je pense que c'est une viande qui est un peu plus facile et que voilà, c'est un truc qui plaît plus à la maison aujourd'hui. Et sinon, j'ai une cuisine qui est quand même très très variée. C'est-à-dire que moi, je cuisine pas non plus que indien.
Quelles sont les autres cuisines qui t'inspirent ?
Je suis très inspirée par la cuisine italienne. Je trouve que c'est une cuisine qui, pour moi, représente un peu les vacances. Je ne sais pas pourquoi, parce que je vais très souvent en vacances en Italie. Mais du coup, pour moi, la cuisine italienne, voilà, c'est les vacances, c'est les bons produits. En gros, je me dis, quand tu manges italien, tu es obligée de bien manger. C'est pas possible autrement, tu vois. Donc, la cuisine italienne. Après, j'aime toutes les cuisines. J'aime la cuisine asiatique, j'aime la cuisine thaï, la très bonne cuisine chinoise aussi. Et la cuisine du sichuanais, c'est vraiment c'est quelque chose que j'adore aussi. Tu vois, j'aime vraiment beaucoup la cuisine et toutes les cuisines, en fait. Je n'ai pas trop de limites.
Je crois que tu as beaucoup voyagé en Inde.
Alors, pas et tant que ça.
J'aimerais bien savoir ce que tu as découvert en Inde. Est-ce qu'il y a des choses différentes de ce que tu as connu dans ton enfance, notamment ?
Alors, énormément. Alors déjà, j'ai jamais été en Inde en famille. Donc ça, c'est déjà un point particulier. C'est-à-dire que quasiment plus de famille en Inde depuis très, très longtemps maintenant.
Donc, tu es retournée au Gujarat ou jamais ?
Jamais. Quand je suis allée en Inde, le peu de fois que j'y suis allée, j'y suis finalement que trois fois. C'est marrant parce que je me positionnais un peu comme une touriste. C'est-à-dire que moi, je découvrais en fait mon propre pays. Et ça a toujours été quelque chose de très particulier, c'est que je me suis toujours, et c'est très bizarre parce qu'aujourd'hui en fait j'ai fait de mon métier, la cuisine indienne c'est mon métier aujourd'hui, mais quand je suis en Inde, j'ai l'impression vraiment de ne pas vraiment être chez moi. C'est comme si en fait j'avais été tellement déracinée que j'ai plus de repères en fait, en quelque sorte, à part peut-être la cuisine justement. Et encore, il faut vraiment aller dans les restaurants qui sont typiques du nord de l'Inde et de la cuisine du Gujarat pour retrouver vraiment des saveurs de mon enfance. Sinon, moi, ce que j'aime en Inde, c'est justement pouvoir découvrir d'autres cuisines indiennes que la mienne, quoi. Et ça, je trouve ça génial.
Alors, quels sont les plats qui t'ont frappé ou que tu as adoré dans tes voyages en Inde ?
Par exemple, il y a un ingrédient notamment qu'on n'utilisait pas du tout dans ma cuisine à moi, qui était la noix de coco. Alors, c'est marrant parce que la cuisine de Gujarat, vraiment, on n'utilise pas du tout la noix de coco. Les plats
moi qui suis originaire du Kerala, je suis née dans une noix de coco littéralement, quoi.
J'adore cette vision des choses. Mais tu vois, typiquement, ma mère, elle n'utilise quasiment pas de noix de coco dans sa cuisine. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'adore et que j'ai beaucoup intégré à ma cuisine. Ajouter de la noix de coco pour équilibrer les saveurs, pour adoucir les plats, etc. J'adore. Alors, évidemment, pas partout parce que ça ne marche pas toujours. Mais j'aime bien cette histoire-là. Et puis les pains aussi, les pains indiens. Tu vois, nous, dans notre cuisine, dans ma cuisine d'enfance, en fait, on mange beaucoup de rôtla, de rôtli. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ce pain à base de farine semi-complète, donc très peu de farine blanche. Voilà. Et moi, j'adore découvrir la multitude de pains indiens qu'il peut y avoir dans le reste de l'Inde, comme les idlis, comme les dosas, que j'ai jamais mangé quand j'étais petite. Et ça, c'est mon plus gros kiff, c'est d'aller manger des dosas. En Inde ou ailleurs, d'ailleurs.
C'est mon plat favori.
Ah ouais ? Moi, je suis une grande fan et j'en ai jamais mangé quand j'étais plus jeune. C'est pas du tout un plat de chez nous, quoi.
Tu évoquais récemment sur les réseaux sociaux ta difficulté à trouver l'inspiration en période de confinement. Est-ce que tu as des tips à nous partager pour retrouver l'envie de cuisiner quand il faut cuisiner tous les jours, deux fois par jour ?
Alors, effectivement, moi, ce que je disais dernièrement sur les réseaux sociaux, je disais, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je me suis rendu compte, en fait, qu'on peinait un peu à avoir des nouvelles idées, que le moment des repas devenait un peu toujours... On tournait toujours un peu autour des mêmes recettes parce que... plus beaucoup d'inspiration, petite déprime ambiante liée à l'incertitude, à la crise sanitaire, etc. Et du coup, je me disais, il est hors de question, en fait, et je ne sais pas si j'ai réussi à le tourner de manière positive, mais j'avais envie que ce soit positif. Mais je me disais, il est hors de question qu'une des choses qui me fait le plus vibrer la cuisine devienne quelque chose d'ennuyeux, devienne une corvée et qu'on tourne en rond dans sa cuisine. Et je me suis rendu compte en parlant sur Instagram qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de partir sur ce mood là ce mood genre ça me saoule de cuisiner, je passe toutes mes journées en cuisine, j'ai l'impression, j'ai eu tous ces messages là hein, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un restaurant à domicile et de devoir assurer des services, mes ados ne se contentent pas d'une soupe, ils ont trop faim donc je suis obligée de cuisiner ci, là, là. Et en fait, effectivement, je pense à un moment, c'est devenu un peu une corvée de cuisiner. Moi, j'aime trop cuisiner, j'aime trop manger. Donc, je me suis dit, hors de question que ça devienne une corvée. Il faut justement reprendre le dessus et se réinventer une cuisine un peu différente. Et du coup, je me suis tournée vers d'autres Instagrammeuses, des copines, des blogs un peu étrangers.
Des nouvelles sources d'inspiration.
Exactement. Et du coup, je me suis reboostée et j'ai relancé un peu la cuisine que j'avais un peu laissée un peu de côté aussi parce qu'à un moment, j'en avais un petit peu marre aussi. Et puis, il y a eu aussi les fêtes de Noël, on a beaucoup trop mangé. J'ai eu un petit peu un ras-le-bol du fromage aussi. Tu vois, les raclettes, les fondues, les machins, c'est bon. À un moment, j'en avais marre. C'est moi qui le dis, tu vois, alors que c'est quand même ma passion, le fromage. Mais voilà, j'ai trouvé plein de petites alternatives sympas parce qu'effectivement, il est hors de question qu'on s'ennuie en cuisine, quoi. Ce serait le pire truc.
Ce serait très triste.
Trop triste.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.
Pour conclure, j'ai un petit questionnaire foodie pour mieux connaître tes goûts. Quel est ton plat favori à partager, que tu vas faire pour partager avec tes amis ou ta famille ?
Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, si moi je dois cuisiner, je suis obligée de cuisiner indien. Tu vois, c'est impossible. Du coup, si je dois faire un plat à partager pour ma famille et mes amis, je ferai un biryani. Un bon biryani avec des oignons frits.
Un biryani, explique-nous ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
Ben, un biryani, en fait, c'est un plat dans lequel on va venir mélanger et cuire à l'étouffée plein d'ingrédients. Donc le riz, en même temps que la viande, en même temps que les légumes, les oignons, les épices, etc. Et c'est plus ou moins fait en deux cuissons. Donc tu as une pré-cuisson et puis une cuisson à l'étouffée de tous les ingrédients qui vont venir se mêler comme ça avec toutes les saveurs. Il faut un peu maîtriser la cuisson, mais voilà, c'est un plat pour moi qui est ultra familial et qui correspond vraiment à des plats de partage et de fête, quoi.
Est-ce que tu as un plaisir solitaire, quelque chose que tu manges quand tu es seule?
Qu'est-ce que je mange quand je suis seule et que les gens, que les ma famille n'aime pas, par exemple,
ou n'est pas là, et un truc qui te fait plaisir à toi toute seule?
À moi toute seule, je dirais des coquillettes. Tu sais, un truc tout bête, je sais pas, ouais, un truc tout simple comme ça, des pâtes au beurre.
Si c'était ton dernier dîner, ouais, qu'est-ce que tu aimerais manger?
Ah, t'aurais pu me poser la question avec qui, mais non. Alors, qu'est-ce que j'aimerais
qu'est-ce que t'aimerais manger?
Qu'est-ce que j'aimerais manger? Peut-être des fruits de mer, tiens. Ouais, je crois que je prendrais des fruits de mer, quelque chose de simple et de pas bourratif, comme ça je meurs tranquille.
C'est important. Quelle est ton épice préférée?
Mon épice préférée, je pense que en ce moment, parce que je peux changer en fonction de mon humeur, même des saisons et tout. Enfin, vraiment, j'ai un truc comme ça. Je dirais les graines de fenouil. En ce moment, j'aime bien ça.
Quelle est ta plus belle rencontre épicée? Quelqu'un, un plat, un pays.
Ma plus grande rencontre épicée, bah, je dirais Nomi, tiens, pour ne pas les citer. Nomi, c'est un couple d'entrepreneurs qui ont créé une marque d'épices avec qui on a fait une super collab l'année dernière et avec qui j'ai pu créer des mélanges d'épices, donc un truc que je rêvais de faire depuis des années. Donc ouais, c'est Nomi.
Quel est ton dernier coup de cœur en restaurant ou en livraison, puisque les restaurants ne sont pas beaucoup ouverts en ce moment?
Eh ben, alors, pour rester dans la cuisine indienne, j'ai un petit coup de cœur pour un restaurant de quartier, donc à côté de chez moi, dans le 17e, qui s'appelle Jingli. C'est des entrepreneurs incroyables, ils sont adorables, ils font une cuisine hyper, hyper savoureuse. Je vous invite à découvrir ce qu'ils font. Et voilà, il faut aider aussi les petits restaurateurs, parce qu'en ce moment, c'est très, très difficile.
Est-ce que tu as un plaisir inavouable, quelque chose que tu aimes manger mais dont tu sais très bien que ce n'est pas bon?
Ah bah un petit junk food de temps en temps ne fait de mal à personne, donc oui, un petit fast food, un petit burger, ça me fait plaisir de temps en temps, et tu sais, notamment quand t'as le moral un peu en berne, que tu te dis que tu te fais un petit truc, un plaisir solitaire comme on disait tout à l'heure, bah moi je peux me faire un petit McDo par exemple.
Faut savoir l'avouer.
C'est quand même rare, mais ça peut arriver.
Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle serait, selon toi, la priorité numéro 1 pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre ?
Bah, la meilleure alimentation, aujourd'hui, disons que je pense que... Moi, déjà, je m'en suis rendu compte il y a quelques années. Le fait de manger de la viande, en l'occurrence, c'est quelque chose qui... Pour moi, aujourd'hui, il va falloir qu'on contrôle un peu plus notre consommation de viande. Mais pas que, hein. Je pensais à l'eau aussi, mais c'est un autre sujet. Mais par exemple, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup limité ma consommation de viande. Et c'est pas forcément que pour une raison de santé, parce que je me porte pas forcément mieux au niveau santé en mangeant moins de viande. Je pense qu'on en a moins besoin et que pour sauver la planète, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que on va arrêter aussi de surproduire et de surélever en fait trop de viande en fait qui ne servent à rien, quoi. Juste pour être tué et manger, quoi.
Très bien.
On finit sur quelque chose de négatif.
Non, très bien. Sandy, c'était un grand plaisir de te recevoir dans Food Karma aujourd'hui.
Plaisir partagé, Bina.
À très bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.